Bonjour à chacun et chacune. C'est toujours un plaisir d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, même si, voilà, elle nous transforme, elle nous porte et elle nous questionne toujours. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain Guillaume Bouin? Un ancien pasteur, assez connu parce qu'il gérait le site Le Bon Combat. Malheureusement connu aussi parce que il a été démis de ses fonctions pastorales, notamment suite à différentes relations extra-conjugales, dont une avec une mineure. Alors je pense que je vous donne un exemple ici, mais vous en avez peut-être d'autres en tête, des faits comme ça où on est attristé, on se demande comment tout ça a pu arriver. Le mois dernier, je lisais un article sur un certain Jonathan Letocque, pasteur également, enfin, il était pasteur. L'article parlait de sa condamnation de prison pour être en possession de différentes vidéos à caractère sexuel avec des enfants. Plusieurs années de prison, il va écoper à partir de cette année, je crois. Là encore, des faits qui nous préoccupent, des faits qui nous choquent, des faits qui nous questionnent sur comment est-ce que ce genre de choses peuvent arriver. Comment tout cela a-t-il pu arriver? Et c'est vraiment la question qu'on va se poser en parcourant ce chapitre 11 ce matin. Ça fait 10 chapitres qu'on parcourt, n'est-ce pas, ce livre de Rois. Ça fait 10 chapitres qu'on parle de la grandeur, de la sagesse de Salomon, du fait qu'il a été choisi pour être le roi du peuple de Dieu, qu'il a été choisi pour construire sa maison, son temple. Et là, le chapitre 11, il nous choque, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que cela a pu arriver. Sans plus attendre, et avant de commencer dans le vif du sujet, je vous propose d'attaquer la lecture de la parole. Et on va parcourir ensemble les 25 premiers versets ce matin, mais je vous propose juste la lecture des 13 premiers. C'est là où je vais en discuter le plus. Et puis j'évoquerai un peu les autres passages au fur et à mesure. Donc 1 Roi, le chapitre 11, les 13 premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos duquel l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Ah pardon, j'ai loupé une phrase. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. » Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Jusque-là, la lecture que je vous propose, encore une fois, on va continuer jusqu'au verset 25 dans notre parcours de notre texte. Mais je pense qu'on en a lu suffisamment déjà. Et on en arrive, comme je vous le disais en introduction, à comment est-ce que tout cela a pu arriver? Comment est-ce que c'est possible que ce grand roi ait pu ainsi se détourner de Dieu. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, je me suis dit, mais il doit nous manquer un chapitre. Il y a un chapitre qui a dû se perdre entre le chapitre 10 et le chapitre 11. On passe tellement de ce grand roi rempli de sagesse à cette chute. Alors non, je vous rassure, il ne manque pas un chapitre, bien entendu. Mais quand même, on se questionne, comment est-ce que tout cela a pu arriver? Alors une des réponses qu'on pourrait apporter, quand on y réfléchit rapidement, c'est de se dire, mais est-ce que ce n'est pas la problématique des femmes? Est-ce que ce n'est pas ces 700 femmes? Quand on y réfléchit, est-ce que David, déjà son père, est-ce qu'il n'a pas déjà péché à cause d'une femme? Quand on pense bien en arrière, est-ce que Adam et Ève, est-ce que ce n'est pas la femme, d'abord, qui a entraîné l'homme? Je vous rassure, je vous rassure, je vois que... calmez-vous, calmez-vous, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Attendez avec les tomates, là. Bien entendu que non, bien entendu que non. Mais voyez comme on peut très rapidement, en lisant parfois un peu les textes en diagonale, en réfléchissant rapidement, avoir une mauvaise vision des choses. Et si je vous en parle comme ça ce matin, c'est aussi parce que c'est arrivé au cours de l'histoire de l'Église. Malheureusement, hein, vous regardez toute l'histoire du Moyen-Âge, la femme était considérée comme la grande tentatrice, comme celle qui détourne le cœur de l'homme de Dieu. Bien entendu, ce n'est pas le grand problème de Salomon. Mais alors, si ce n'est pas ça le grand problème de Salomon, bien entendu, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il en est pu arriver là? On prend un peu de recul par rapport à notre texte, on réfléchit à la place des auteurs de Un Roi, on se rappelle, hein, le livre des rois a été écrit juste après la déportation, ce qui fait que l'auteur avait vraiment la vision globale, enfin en tout cas une grande vision sur tout ce qui s'était passé, tous les rois qui se sont succédés, et là encore on le voit très bien, alors c'était le cas de David et Salomon, mais la plupart des autres rois, que ce soit Saül avant, que ce soit un peu Jéroboam après, c'était pas la problématique des femmes bien entendu, d'accord, il y a plein de choses qui ont détourné leur cœur de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui a ainsi détourné Salomon de Dieu? Et quand on parcourt le passage ce matin, c'est assez clair. Le problème de Salomon provenait de son cœur. On le voit dans les différents passages, plusieurs fois dans notre texte, on l'a lu. Il a détourné son cœur de Dieu. Et ça fait bien écho à ce que Jésus nous dit en Marc 7. Marc 7, hein, vous vous rappelez, ces pharisiens qui viennent voir Jésus parce que ses disciples ne se lavaient pas les mains. Et Jésus qui leur répond que il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur. Ce n'est pas le problème des femmes, ce n'est pas le problème de l'argent qui vient transformer notre cœur. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, etc. etc. Le problème de Salomon, c'est le même problème que nous. C'est le problème de notre cœur. N'est-ce pas? Et ce problème qu'on a dans le cœur, le problème qui vient nous éloigner de Dieu, on lui donne un nom en tant que chrétien. C'est la réalité du péché. C'est lui qui vient corrompre notre cœur, qui vient nous pousser à nous détourner de Dieu. Voilà le grand thème que je vais aborder avec vous ce matin, cette réalité du péché qui vient nous corrompre de l'intérieur. Mais ce n'est pas le seul thème qui va m'intéresser. Je vous propose aussi, en plus de voir cette réalité du péché, de voir la réponse de Dieu face à cette réalité du péché. On va donc partout courir ces deux grands thèmes un peu successivement ce matin, et je vous propose tout de suite d'attaquer par un premier point sur cette réalité du péché, là où tout commence, verset 1, avec un désir, une envie. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon, des Moabites, etc., etc., etc. Et là, on voit le côté pervers du péché dès le départ. Ce qui était une bonne chose, parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est quand même la relation homme-femme, qui est une bonne chose, voulue par Dieu. Le péché le corrompt. Le péché le transforme. Et crée quelque chose qui nous éloigne de Dieu, au contraire. Et Salomon, au lieu de se contenter de ce bon désir de Dieu d'avoir une femme, il en a voulu une deuxième, une troisième, une quatrième, et je ne vais pas compter jusqu'à 700. 700, plus les 300 concubines en plus. Et pourtant, Salomon était tout à fait au courant, on le voit au verset 2, qu'ils ne devaient pas prendre ainsi autant de femmes. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. » Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Salomon était parfaitement au courant qu'il ne devait pas faire ça. Est-ce que ça vous arrive aussi de savoir qu'il y a quelque chose qu'on ne devrait pas faire? Que Dieu nous parle, nous dit non, ça, c'est pas bien. Mais malheureusement, on le fait quand même. La réalité du péché qui était vraie il y a plus de 2000 ans avec Salomon, elle est toujours aussi vraie avec nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que le passage de ce matin, il va tellement nous parler. En fait, le péché, il n'a pas tellement changé. Et l'un de ses premiers grands points du péché, c'est qui fait qu'on n'écoute pas Dieu. On sait que Dieu veut certaines choses pour notre vie. On sait que Dieu veut nous guider d'une certaine manière. Mais on n'est pas à l'écoute de ce qu'il veut pour nous. Malheureusement, c'est la grande réalité du péché, une des grandes réalités du péché qu'on découvre dans notre texte. On n'est pas à l'écoute de notre Dieu, n'est-ce pas? On n'est pas les seuls à avoir ce problème. Paul lui-même, en Romains, chapitre 7, au verset 21, il nous dit « Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est ma portée. » Remarquez que Paul n'est pas en train de dire qu'il est permanence en train de chuter, mais il remarque qu'à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose qui le pousse à s'éloigner de Dieu, à ne pas être à l'écoute de ce que Dieu veut. C'est une lutte quotidienne que le péché pour qu'on puisse réussir à être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Alors, je vous avais dit, on ne va pas juste regarder la réalité du péché ce matin, on va aussi voir les réponses de Dieu. Et là où nous, on n'écoute pas correctement Dieu, Dieu continue à nous parler, n'est-ce pas? On le voit avec Salomon au verset 11 qu'on a lu ce matin. « L'Éternel dit alors à Salomon, puisque tu as agi de cette manière, et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. » Dieu parle à Salomon de deux manières. Déjà, il le parle directement. Il va lui dire, là, il y a un problème. Ce que tu fais, ça ne va pas. Alors pour nous aujourd'hui, je suppose que vous n'entendez pas directement la voix de Dieu qui vous parle et à chaque fois que vous faites une erreur. Pourtant, quand on y réfléchit bien, Dieu nous a donné son esprit. Et bien souvent, n'est-ce pas? Je pense que ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Quand on fait quelque chose qu'on ne devrait pas, il y a quelque chose dans notre cœur. Il y a l'Esprit qui vient nous le dire, qui vient parler à notre cœur, nous dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une première manière dont Dieu communique à nous. Une deuxième manière qui communique, on le voit dans le passage, Dieu va perturber la paix du royaume d'Israël pour mettre en garde Salomon. Dieu va envoyer, et c'est le passage qu'on n'a pas lu, mais que je vous propose de parcourir un peu en diagonale, les versets 14 à 25, Dieu va en faire surgir des adversaires pour Salomon, notamment un certain Hadad, l'Édomite. Dieu, parfois, et je dis bien parfois, c'est pas non plus une obligation, mais parfois, il envoie des choses qui ne vont pas dans notre vie pour nous mettre en garde face à un de nos péchés. Alors je dis pas que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie que Dieu essaie de nous mettre en garde contre le péché. Attention, hein, c'est pas une cause-conséquence obligatoire, bien entendu. Il y a plein de raisons qui font que parfois ça ne va pas dans notre vie. Mais aussi, une des manières que Dieu utilise pour nous parler, c'est de faire qu'on a des difficultés dans la vie pour nous mettre en garde contre un péché qui est bien plus grave. Il le fait notamment avec Salomon, et ce qui est vraiment impressionnant dans notre texte ce matin, avec ce fameux Hadad l'Édomite, c'est qu'on pourrait se dire, ah ben voilà, Salomon il a péché, donc Dieu réagit, il envoie Hadad. Mais quand on regarde bien notre passage, alors je ne l'ai pas lu, mais vous pouvez parcourir, ce fameux Hadad, il a réussi à échapper à un massacre que David avait fait quand il avait voulu tuer tous les Édomites de sexe masculin, bien des années et des années avant le péché de Salomon. Dieu savait pertinemment, bien des années, avant même que Salomon devienne le roi d'Israël, que celui-ci allait se détourner de Dieu. Il savait pertinemment ce qu'il y avait dans le cœur de Salomon. Il savait que celui-ci allait se détourner de lui. Dieu est parfaitement au courant de tout ce qui va arriver. Et il ne se laisse pas changer de situation comme ça au fur et à mesure du péché. Non, non. Dieu prévoit bien en avance toutes les conséquences du péché, et il prévoit aussi toutes les solutions, toutes les réponses qu'il va apporter. Ce fameux Hadad qui a été mis à part et qui a réussi à rejoindre le Pharaon bien des années avant le règne de Salomon, qui a réussi à rejoindre le Pharaon, il a été un peu béni de la part du Pharaon, il a reçu des terres, il a reçu sa belle-sœur même comme femme. Mais au moment voulu par Dieu, Hadad décide de partir, d'aller déranger le peuple d'Israël. Pourtant il avait tout, c'est ce qu'on voit au verset 22, le Pharaon lui dit « Mais que te manque-t-il auprès de moi pour que tu cherches à rentrer dans ton pays ?» Et Hadad qui répond « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu va agir de certaines manières dans l'histoire pour continuer à œuvrer dans ses plans. Il a tout prévu par avance, mais et aucune conséquence du péché ne vient détourner son bon plan. C'était une petite parenthèse que je fais ce matin, mais que je trouvais tellement intéressante et tellement forte. Le fait de savoir que Dieu ne se laisse pas détourner par rapport au péché. Alors moi, ce que j'aurais bien voulu vous afficher, vous voyez, je ne vous affiche rien. J'aurais bien voulu afficher la réponse de Salomon. Il n'y a rien. Le texte ne nous donne aucune réponse de Salomon par rapport à cette réponse de Dieu. Quand on repense au péché de David avec Bathsheba, quand le prophète Nathan vient voir David pour mettre en lumière son péché, David répond « J'ai péché contre l'Éternel ». David se rend compte de ce qu'il a fait. Ici, le texte ne nous dit rien par rapport à Salomon. Pourquoi ? J'aimerais bien avoir la réponse. Je ne sais pas vraiment. Mais ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce qu'on se dit, peut-être que Salomon ne s'est pas humilié devant Dieu. Peut-être que Salomon ne s'est pas rendu compte, en fait, que ce qu'il avait fait, c'était vraiment grave. Qu'il était à ce point plus à l'écoute de Dieu que même quand Dieu lui parle, il n'y a pas de changement dans son cœur. Là, on arrive vraiment à un stade très, très poussé du péché. Très, très poussé. Et c'est pour ça qu'on doit veiller dès le départ. Dès que le péché commence à toquer à notre porte, à lutter contre. Parce que plus on le laisse avancer dans notre cœur, plus c'est difficile d'être ensuite à l'écoute de Dieu. Alors le péché ne fait pas que nous empêcher d'être à l'écoute de Dieu. Une des autres conséquences, c'est aussi qu'on oublie très rapidement les bontés de Dieu pour nous. On oublie ce que Dieu fait pour nous. On le voit, verset 4 de notre passage de ce matin, à l'époque de la vieillesse de Salomon. C'est pas juste après qu'il ait construit le temple, c'est bien des années après, quand le péché a commencé à rentrer petit à petit dans son cœur, Salomon a oublié toutes les bontés que Dieu avait eues pour lui. Et une des grandes bontés, on l'avait vu au verset 9, on l'a rappelé, c'est que Dieu lui était apparu deux fois. Alors pour nous qui avons tout l'Ancien Testament sous les yeux, on se dit « Ah ben, ça arrive assez régulièrement que Dieu se révèle aux hommes. » Mais en fait, c'est quand même pas mal de milliers d'années d'histoire qu'on parcourt comme ça. Et c'est très rare, en fait, que Dieu se révèle aux hommes. Salomon avait eu des grâces particulières qu'on se dit « Mais il ne peut pas les oublier quand même. » Il a vu Dieu en face deux fois. Il a reçu de la sagesse. Il a été choisi pour construire le temple. Mais tout ça, petit à petit, il l'a oublié. Le péché fait qu'on oublie très rapidement la grâce de Dieu pour nous. Moi, quand je me suis converti il y a quelques années et que je me suis fait baptiser, j'ai été étonné parce que parfois il y avait des aînés dans la foi qui me disaient « Ah, qu'est-ce qu'on est encouragé par tes petits services parce que tu appuies sur deux boutons à la vidéoprojection là derrière, on est content de ça. » Et moi, je ne comprenais pas trop vraiment, mais pourquoi est-ce que les aînés qui sont dans la foi depuis tellement d'années sont encouragés par ces petites choses. Et avec le recul, maintenant que j'ai quelques années de vie chrétienne, je me dis, mais en fait, on oublie tellement rapidement le zèle qu'on a pu avoir à une époque. On oublie tellement rapidement les grâces de Dieu. C'est une nécessité quotidienne de se souvenir des grâces de Dieu pour nous. Sinon, on les oublie, on les oublie. Et si on est encouragé par les jeunes qui justement ont ce zèle et on se dit « Ah oui, mais c'est vrai, j'étais comme ça aussi, il faut que j'essaye de me remotiver. » Moi, je suis encouragé aussi par les aînés. Je me dis « Mais ils ont parcouru des dizaines d'années avec le Seigneur et ils ont encore du zèle. » Ils ont vraiment cette détermination à s'encourager avec la croix, avec la grâce, chaque jour, alors que parfois c'est difficile, n'est-ce pas, de se rappeler tout ça, de se rappeler que ça a de l'importance pour nous et notre vie. On oublie très rapidement ce qu'il a fait. Et une des meilleures démonstrations que j'ai trouvées dans le livre, en parcourant un peu la suite, c'est en Esdras. Alors Esdras, on ne se souvient plus forcément où c'est. David, Salomon, tous les rois qui, à partir de là, commencent à chuter, petit à petit, et même de grand en grand, j'ai envie de dire, tellement ça chute vite, jusqu'à la déportation du peuple, jusqu'à la destruction du temple d'Israël, la rédaction de notre livre de 1 roi. Et là, Dieu fait grâce particulière. Tous ces déportés, il les ramène sous le temps d'Esdras. Il leur permet de reconstruire un second temple qui ne sera pas aussi prestigieux, mais quand même, il leur permet de revenir, malgré leurs fautes, malgré leurs péchés. Il leur permet de reconstruire le temple. Et là, on se dit, mais forcément, là, ils vont être remplis de zèle, ils ne vont pas oublier les grâces du Seigneur, n'est-ce pas? C'est un chapitre que vous voulez lire cette semaine pour un peu prolonger la réflexion de cette prédication. Lisez Esdras 9. C'est un chapitre magnifique. Je ne vais pas le lire en entier parce que j'ai prévu d'être relativement court ce matin. J'ai juste parcouru rapidement les deux premiers versets. Cela fait, donc juste après qu'il soit revenu d'exil, juste après que Dieu leur ait permis de reconstruire le temple. Cela fait, les chefs se sont approchés de moi en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites, ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables. Oui, celles des Canéens, des Hittites, des Phérésiens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes, pour eux et pour leurs fils. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. Ils viennent tout juste de revenir d'exil. Ils viennent tout juste d'avoir la grâce de reconstruire le temple. Et déjà, ils oublient toutes les grâces de Dieu. Ce matin, ce qu'on va vraiment parcourir ensemble, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a 2500 ans. C'est quelque chose qui doit nous préoccuper, parce que ces vérités peuvent nous arriver à nous aussi. Le péché n'a pas changé. Le péché touche toujours au même endroit. Il fait qu'on n'écoute pas Dieu, et il fait qu'on oublie très, très, très rapidement toutes les grâces qu'il nous donne. J'aurais pu parcourir la lecture, je vous conseille vraiment de poursuivre cette lettre d'Esdras où justement il fait une magnifique prière à Dieu par la suite, mais je vais continuer, je vous laisse faire la lecture de cette semaine. Une réponse de Dieu, toujours, Dieu répond à cela. Si nous, on oublie très rapidement les bontés de Dieu, lui n'oublie pas ses promesses. Et je pense que dans la lecture qu'on a fait tout à l'heure de notre chapitre 11, s'il y a un verset qui nous a fait plaisir, n'est-ce pas, et qui vous a peut-être un peu fait remarquer, sorti du lot, c'était ce verset 13. Dieu qui dit à Salomon, « Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Dieu avait fait une alliance avec le peuple d'Israël. Il avait fait une alliance avec David. Il avait mis en garde le fait que si jamais le roi s'éloignait de Dieu, il allait avoir des conséquences. Et il y a des conséquences, on vient de le voir. Mais malgré ça, Dieu poursuit son alliance. Dieu a fait des promesses, le fait qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône de David. Dieu maintient ses promesses, malgré le péché. Là encore, c'est quelque chose qui nous encourage. Même si dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des péchés qui nous détournent malheureusement parfois de Dieu, qui ont des conséquences dans notre vie, Dieu continue à maintenir cette relation avec nous. Dieu veut continuer à tenir ses promesses envers nous. Il veut continuer à nous porter, à nous encourager, malgré tout ce qu'on peut faire. Ça ne dépend pas de nous, c'est d'abord Dieu qui maintient cette alliance avec nous. Quelle grâce! Quelle grâce! Que de belles réponses de la part de Dieu face au péché. Une autre conséquence, une des plus graves, bien entendu, c'est le fait qu'on s'éloigne de Dieu. Et si le verset 13 était un verset qui était encourageant, le verset qui était sans doute le plus décourageant parmi ceux qu'on vient de lire, c'était le verset 7. Salomon, qui a construit la maison de Dieu, se met à construire des hauts lieux pour Kemosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Et ça, sur la montagne, juste en face de Jérusalem. Juste en face. Lui qui a bâti la maison de Dieu là où Dieu allait faire résider son nom sur terre. Ce même homme a bâti des hauts lieux, des lieux de sacrifice, juste en face, pour des faux dieux. On en arrive vraiment à se poser de nouveau cette question d'introduction, mais comment est-ce que ça peut arriver? Voilà les conséquences du péché dans la vie de l'homme. Et j'ai une question pour nous ce matin. Une grande question. On est encouragé en ce moment par la vie d'église, en tout cas moi je le suis, par notre vie d'église à Vitanem. On a de beaux projets, des belles choses qui se mettent en place. On a aussi envie de construire des bâtiments, n'est-ce pas? On a aussi envie de faire plein de choses pour Dieu. Est-ce qu'on s'imagine que c'est possible que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, notre église de Vitanem se soit tellement détournée de Dieu qu'on ne le prêche plus correctement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une vérité qui est envisageable qu'on se détourne de Dieu dans les années à venir? Est-ce que c'est possible qu'on finisse par prêcher un faux évangile? Est-ce que c'est une possibilité? J'espère qu'on répond positivement à cette question, dans le sens où on est vraiment à veiller, comme le Nouveau Testament nous y invite si souvent, sur le fait que le péché peut nous détourner. Le péché peut avoir de lourdes conséquences. Et en effet, il pourrait détourner notre belle Église aussi, du seul vrai Dieu. Et un point d'exclamation particulier. Pourquoi? Parce que Salomon, c'est pas parce qu'il avait plein de problèmes qu'il s'est détourné de Dieu. Au contraire, c'est parce que tout allait bien dans son royaume. Tout allait bien pour lui. Il y avait prospérité, il y avait gloire, il y avait de l'or, à ne plus savoir quoi en faire. Tout allait bien pour lui. David avec Bathsheba, c'est pas quand il était poursuivi par Saül, hein, qu'il a commencé à se détourner de Dieu. C'est quand tout allait bien, qu'il était en paix, tranquillement chez lui, qu'il s'est laissé détourner. Adam et Ève, au début, ils étaient bien dans leur petit paradis. C'est quand tout va bien que le péché peut faire de lourds dégâts, que le péché peut nous détourner de Dieu au point de ne plus le suivre correctement. Alors on est encouragé parce qu'il y a de belles choses dans notre Église. Mais veillons, comme nous le dit si bien tant de passages du Nouveau Testament. Veillons. On s'éloigne de Dieu, n'est-ce pas? Avec la réalité du péché. Et parmi toutes les conséquences du péché, le fait de ne pas écouter Dieu, le fait d'oublier ce qu'il fait, le fait de nous éloigner de nuit, il y a une conséquence particulière aussi, très grave, très très grave. Le péché, c'est sans doute un de nos pires ennemis, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il vient en contrebalance d'un des plus grands commandements que Dieu a donné à l'homme. Vous connaissez le plus grand commandement que Dieu a donné à l'homme? Jésus le rappelle. Quand un pharisien vient lui poser la question, il dit « Mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Quand j'ai médité ce passage ce matin, je me suis dit « C'est vrai que quand je regarde mon cœur, je me dis, le péché, ça va, j'ai pas fait de grandes choses, grandes erreurs ces derniers temps. J'arrive à peu près à servir Dieu, j'arrive à le louer, j'arrive à faire différentes choses pour lui. Mais quand je médite ce verset, qui nous dit que la plus grande chose que Dieu attend de nous, c'est qu'on l'aime. Je regarde à mon cœur et je me dis, mais est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que je fais plein de choses dans mon quotidien, par habitude, parce que je suis motivé à servir Dieu? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Et la réalité du péché, parce que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, et parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui le corrompt, qui le perturbe, qui le pourrit de l'intérieur. La réalité du péché fait qu'en fait, on n'arrive pas à aimer Dieu correctement. Et ça a quelque chose d'horrible, de terrible. Pourquoi ? Parce que si Dieu nous avait demandé de prier 3 fois par jour, par exemple, on aurait peut-être pu essayer de se forcer à faire ça. On aurait peut-être pu essayer de se changer nous-mêmes, de se dire, là, je vais essayer de faire un effort pour Dieu, et je vais y arriver. Mais quand Dieu nous demande de l'aimer, et quand on voit le cœur de pierre qu'on peut avoir, on se dit que rien de ce qu'on peut faire ne peut y changer quelque chose. On se retrouve face à la réalité de notre propre péché. On se rend compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Et à la dure réalité du fait que nous-mêmes, on ne peut rien faire face à la dureté de notre cœur. Et c'est là, bien entendu, qu'il y a une magnifique réponse de la part de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Rappelez-vous le passage qu'on a lu tout à l'heure en Romains 7. Paul qui se disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. Et qui me délivrera de ce corps mort, nous dit-il au verset 24. Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ. La seule chose qui peut venir transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, c'est le sacrifice de la croix. On ne pouvait rien y faire. On était perdus. À jamais. Si Dieu n'était pas venu intervenir dans notre cœur, jamais on n'aurait pu avoir l'espoir de réussir à l'aimer correctement. Il nous fallait que Jésus-Christ, que Dieu lui-même, vienne intervenir pour changer ça. Et la bonne nouvelle ce matin, bien entendu, on la lit un peu plus loin, chapitre 8, le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, la bonne réponse de Dieu à la réalité du péché, c'est que même si nous, on ne pouvait rien y faire, même si nous, on n'arrivait pas à aimer Dieu comme on le pouvait, Dieu a vaincu le péché à la croix. Et maintenant, même si le péché continue parfois à agir dans notre cœur, il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est terminé. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle pour vous si peut-être ce matin, vous n'avez pas encore été racheté du péché. Si vous avez encore dans votre cœur le poids, le fardeau du péché, ne cherchez pas, il n'y a qu'une seule solution possible. C'est Jésus-Christ qui est mort pour payer le prix de ses péchés. C'est une bonne nouvelle aussi pour nous qui avons déjà fait ce choix de l'accepter. C'est une bonne nouvelle parce que déjà, tout d'abord, c'est un témoignage immense qu'on peut apporter à nos prochains, à nos contemporains. Chesterton, un auteur du XXe siècle, disait qu'il y a une chose que l'être humain ne peut pas nier. C'est la réalité du péché. Il disait ça au début du XXe siècle. Un siècle plus tard, l'actualité nous montre qu'en effet, on peut nier Dieu, on peut nier plein de choses. Mais franchement, nier la vérité du péché. Et alors, pour nous, même si on est horrifié par ce péché dans le monde, ça nous donne aussi un puissant témoignage. Parce que ceux qui voient la réalité du péché et qui ne connaissent pas Christ, c'est la seule réponse vraie qu'on peut leur apporter. Seul Jésus-Christ pour répondre à cette problématique du péché. Il y a une autre chose importante pour nous aussi, qui connaissons Christ dans notre cœur. Dieu n'a pas fait qu'envoyer Jésus-Christ. Il a aussi envoyé son Saint-Esprit, n'est-ce pas? On continue la lecture dans Romains. Romains 8. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Souvent, quand on pense à l'Esprit Saint, on va très souvent avoir tendance peut-être à penser aux dons spirituels qu'il peut nous apporter. Mais est-ce qu'on se rend compte que l'un des éléments forts du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de venir nettoyer notre cœur pour nous débarrasser chaque jour un peu plus du péché. Dieu veut continuer à œuvrer dans notre vie, dans notre cœur, à travers son esprit, pour qu'on élimine chaque jour un peu plus le péché qui y réside. Quelle grâce encore de sa part. Et si ce matin on est préoccupé par cette réalité du péché, qu'on soit croyant ou pas, ne rentrons pas chez nous en nous disant « Je vais essayer de faire quelque chose pour régler ça. » On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Si ce n'est demander à Dieu qu'il continue à agir au plus profond de notre cœur, à travers son esprit, pour transformer ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est Dieu qui nous révèle le péché qui est dans notre vie. C'est lui aussi qui s'occupe de venir nettoyer notre cœur. Et je terminerai avec ce magnifique passage en Philippiens 1:6. Paul qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui nous a libérés du poids du péché, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce matin, qu'on puisse vraiment encore avoir à cœur d'être à l'écoute de Dieu, que Dieu puisse venir transformer nos cœurs, parce que la réalité du péché est encore présente aujourd'hui. On a besoin que Dieu vienne nous transformer de l'intérieur, qu'il poursuive cette œuvre qu'il fait en nous, pour qu'on puisse réussir à l'aimer correctement. Qu'on puisse vraiment aimer Dieu. Amen.